France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
L'Allemagne de l'Est, l'antifascisme et la guerre froide. Le 28 avril 1945, le dictateur fasciste italien Benito Mussolini est exécuté par des résistants. Le 30 avril 1945, à Berlin, Hitler se suicide. Ce n'est pourtant évidemment ni la fin du fascisme, ni la fin du nazisme.
J'ai l'impression que le côté tragique de la situation réside surtout dans la coupure sur l'Elbe, qui est une ligne historique entre une Allemagne de l'Est et une Allemagne occidentale. Et qu'au fond, de part et d'autre, les Russes d'un côté et les Occidentaux de l'autre, surtout à cause de leur division, font une politique irréelle, superposée au peuple allemand et ne l'engrènent pas dans une politique démocratique vraiment positive et vraiment efficace.
Avec ici Edmond Vermeil, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la civilisation allemande, qui s'exprimait en 1949, au moment où l'Allemagne se divise. Nicolas Offenstadt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de Le pays disparu, sur les traces de la RDA, Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés, et de l'histoire globale de la RDA, que vous publiez chez Talendier. Vous ne seriez pas un peu spécialiste de la RDA ?
Ben oui, c'est une trilogie en fait, donc c'est effectivement un cheminement à travers le passé de la RDA.
Un pays qui s'est construit contre le fascisme.
Oui, absolument. Ce qui est une des marques de fabrique de l'Allemagne de l'Est pendant quasiment toute son existence, donc de 1949 à 1989-90, c'est d'être un État antifasciste. C'est le discours officiel par rapport à tout ce qui peut se passer en Europe. L'antifascisme, il est en Allemagne de l'Est. Donc c'est une définition, on pourrait dire, fondamentale, ontologique de la RDA que de se vouloir antifasciste.
Siamo tutti antifascisti, c'est une émission du cours de l'histoire sur le fascisme et l'antifascisme en Italie. Nos passaranes sur le fascisme des années 1930, en tout cas l'antifascisme tel qu'il est perçu en Espagne et en Europe. Des émissions à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France. Dites-nous, Nicolas Offenstadt, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que signifie fascisme? Parce que nous l'avons bien vu, le fascisme des origines, c'est spécifique à l'Italie, puis très vite, ça prend une tournure plus générale. Après la Seconde Guerre mondiale, ça a changé de sens encore?
D'abord, si on se place immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord évidemment un échec, et puis la somme des massacres, des horreurs qui se sont passées. Donc, évidemment, en 1945, aux yeux de beaucoup, soit les populations qui l'ont vécu, soit celles qui en ont souffert, soit celles qui l'ont combattu, c'est évidemment le repoussoir absolu pour toute une partie de l'Europe. Donc, il n'est pas question, évidemment, de repenser le fascisme en 1945. C'est, dans le fond, cet ennemi qui a détruit le continent pour beaucoup. D'ailleurs, il y a un grand spectre de lecture de cet échec et de cette horreur du fascisme. Donc, il faut bien imaginer que, dans le fond, quasiment beaucoup des Européens sont avant tout antifascistes en 1945 parce que, évidemment, on est sur les ruines, on est sur les décombres de ce qui a été produit par le fascisme, non seulement dans les pays dans lesquels il a été au pouvoir, mais évidemment dans ceux qui ont été ravagés par la guerre et par les violences. Donc il faut bien imaginer que le fascisme en 45, ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas des partisans encore de ces régimes, mais on imagine bien que c'est beaucoup de décombres et beaucoup de ruines.
Oui, parce que au début des années 1920, le fascisme, c'est l'avenir. Les gens ne savent pas ce que cela va donner. En 1945, ils l'ont vécu, le fascisme. Alors c'est le passé ou pas le passé? Parce que c'est toute la question des idées, des concepts. Ils sont portés par des gens, des êtres humains qui, eux, continuent à vivre. 1945 n'efface pas l'ensemble des gens qui ont porté le fascisme. Il y a une épuration d'ailleurs dans le cas de l'Allemagne.
Bien sûr, et pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, c'est pour ça qu'il ne faut pas lire les années 20 et les années 30 à l'aune de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'aune de la Shoah, à l'aune de la destruction des Juifs d'Europe et de toutes les autres catégories qui ont été persécutées, en particulier par les nazis. Parce qu'évidemment, le fascisme des années 20 et même le nazisme des années 30, c'est pas encore l'horreur de ce qui va être en 45. Et notamment quand on regarde, par exemple, le dilemme bien connu, antifascisme ou pacifisme, face à la montée des fascismes, y a des gens qui hésitent, parce que le fascisme, évidemment, c'est un régime autoritaire, c'est des gens qu'on n'aime pas, mais bon, après tout, il y a eu la Première Guerre mondiale, donc ça vaut pas la peine de quand même faire la paix, même si ce sont pas nos ennemis, parce que, c'est quoi, c'est Verdun, ou on recommence Verdun ou pas. Donc, vous voyez, dans les années 20 ou 30, le regard qu'on va porter sur le fascisme, il est déterminé parce que les gens ont vécu. Et ce qu'ils ont vécu, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est la Première. Donc, après 45, en revanche, c'est complètement différent, évidemment. Le fascisme, c'est l'horreur de ce qui vient de se passer. Donc oui, bien sûr qu'il y a une épuration qui est variable dans tous les pays, en Italie, plus encore en Allemagne, hein, puisque évidemment l'Allemagne ne peut prétendre à aucune ne pas être dans le camp des vainqueurs, alors qu'il y a eu quand même une résistance en Italie qui a participé à la libération. Donc une épuration effectivement très importante qui passe à la fois par l'épuration des grands procès de ceux qui sont les responsables, on pense évidemment au procès de Nuremberg, mais aussi à l'échelle locale, hein, les millions de membres du parti nazi qui avaient des responsabilités vont passer en partie devant des commissions d'épuration.
C'est comme en France, hein, les territoires qui ont été libérés par des FFI ne connaissent pas la même épuration que les territoires qui ont été libérés par les troupes alliées qui avancent. Et en Allemagne, c'est la même chose. On ne peut pas prendre l'Allemagne comme un tout en 1945 selon qui libère.
Absolument. Et puisque vous parliez de l'épuration est en fait assez différente selon les alliés, puisque vous savez que ceux qui occupent l'Allemagne, ce sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, donc l'URSS, les États-Unis, l'Angleterre et la France, hein, qui a aussi obtenu une zone d'occupation, bien qu'on sache ce que le régime de Vichy, évidemment, ne fait pas de la France le même allié des anglo-saxons que d'autres. Bref, vous avez quatre vainqueurs qui vont donc se partager à la fois l'Allemagne et Berlin, avec tout un ensemble de textes communs, de décisions communes, qui sont les grands accords de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui vont donc organiser l'épuration. Et la dénazification est évidemment à la fois des buts de guerre et des accords entre les alliés. Donc il s'agit de dénazifier. Alors dénazifier, ça veut dire deux choses. Ça veut dire évidemment se débarrasser des nazis, mais ça c'est à la limite, on pourrait dire ponctuel, c'est aussi de démocratiser. Et donc du coup, tout le monde n'a pas la même vision de ce que c'est que de reconstruire une Allemagne sans nazis. Donc vous imaginez bien que l'URSS communiste n'a pas le même regard sur ce que c'est qu'une démocratie en 1945 pour l'Allemagne. Donc tout le monde est d'accord pour dénazifier. Mais tout le monde n'est pas d'accord, un, sur la manière de faire, et deux, sur l'objectif second, et qui fait aussi partie de ce qui a été décidé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est de démocratiser l'Allemagne en se débarrassant, évidemment, de toutes les séquelles du nazisme. Mais se débarrasser des séquelles du nazisme, c'est pas seulement se débarrasser des nazis, c'est aussi de toutes les mentalités, la manière d'être, le rapport au pouvoir. Donc c'est évidemment un processus qui doit être réfléchi, qui est long, compliqué, et qui dépend des alliés et de leurs orientations à la fois politiques et morales.
Surtout que c'est difficile de dénazifier au sens où en Allemagne, durant le temps où Hitler était au pouvoir, je ne peux pas dire que tout le monde était nazi, parce que c'est pas comme ça que ça se conçoit. Mais si l'on regarde dans les jeunesses hitlériennes, ben, y a plein de gamins qui y étaient. Peut-on dire qu'ils étaient nazis? C'est bien difficile.
Bien sûr, c'est bien difficile. Et d'ailleurs, c'est les débats. Quand vous adhérez, quand vous êtes un des premiers, que vous faites le coup de main avec les SA, puis avec les SS dans les années 30 et puis dans les années 40, vous n'êtes pas le même, hein, qu'un jeune qui est quasiment obligé d'adhérer en 1944, au moment où tout part en déréliction. Donc effectivement, être membre du parti nazi, ça demande évidemment une évaluation qui a d'ailleurs été faite par les commissions. C'est là tout l'enjeu. Hein, c'est dans le fond, et d'ailleurs c'est dans les textes à l'époque, hein, on dit ceux qui ont participé activement. Hein, c'est ceux qui vont être évidemment épurés en priorité, notamment dans l'administration. Mais la question de l'activement, évidemment, se discute. Et puis vous avez des complices qui vont dire « mais non, en fait, c'était juste un huitième couteau, pas la peine de s'en occuper ». Donc vous voyez, il y a toute une négociation qui va se jouer dans les commissions d'épuration pour savoir, dans le fond, qui va être épuré. Et ça, c'est évidemment une grave question. Parce que dans le fond, la question que vous... qui se pose derrière tout ça, c'est dans le fond, c'est comment vous reconstituez un pays avec des gens qui, dans le fond, pour l'essentiel, sont les mêmes que ceux qui ont effectivement, comme vous dites, pour beaucoup, salué le nazisme. Et ces gens-là n'ont pas disparu. Bien sûr, certains sont morts pendant la guerre, on sait qu'il y a eu des pertes colossales, mais ce sont les mêmes qui sont dans tout un ensemble de postes. Donc, vous voyez, la question, c'est une question d'ailleurs qui est historique, qui est très intéressante, c'est comment vous faites la paix? Hein, comment vous faites quand vous devez construire quelque chose? Vous ne pouvez pas faire la table rase. C'est rare qu'on ait les compétences pour tout recommencer à zéro. Ou alors, ça risque d'éradiquer la population. Donc, il faut bien faire avec ce qui est là. Et ça, c'est tout l'enjeu de ce qui va se passer dans les années 45-50.
D'autant que, dans ces années-là, ce n'est pas totalement la fin de la guerre, au sens où il y a toujours des tensions, et nous les connaissons bien, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre froide. Et donc, dans cette démarche, tout le monde n'est pas uni dans l'idée de dénazifier ou de combattre le fascisme.
Et bien sûr, ça va être un des enjeux qu'on va retrouver dans tous les pays, à l'Est comme à l'Ouest, c'est que, dans le fond, les Alliés étaient évidemment relativement unis à la fin de la guerre, pour vaincre le nazisme. Certains ont voulu prolonger. Alors, il y a des grands débats pour savoir à quel moment la guerre froide commence, à quel moment c'est le cynisme qui l'a emporté sur les alliances. On ne va pas détailler, mais ce qui est effectivement important, c'est qu'en gros, à partir de 47-48, les tensions sont très importantes, et donc l'ennemi pour les uns va devenir l'impérialisme et dès l'autre le communisme. Donc vous voyez, il va falloir comment continuer dans le fond à mettre le fascisme à distance, sachant que l'ennemi réel, l'ennemi contemporain, il est en face. Donc c'est le communisme hein, pour l'Ouest et ce sont les Américains et l'impérialisme pour l'Est. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, les choses vont changer. Il y a des alliances qui vont pouvoir se faire, qui vont se... Et donc du coup, est-ce qu'il faut se débarrasser de gens qui finalement peuvent être utiles dans la lutte contre l'autre ?
Il est certain que la mort de Mussolini et d'Hitler en l'espace de quelques jours, hein, au mois d'avril 1945, ne résout pas le problème.
Berlin tombe sous les coups répétés de l'armée rouge. Berlin, ce qui avait été Berlin, car Berlin est mort d'avoir été la capitale de Hitler, celle du militarisme prussien. Le nazisme tue et brûle ce qu'il touche. En même temps, les armées alliées pénètrent dans Munich. C'est là qu'Hitler s'est fait chef de bande avant d'être chef d'État. C'est là, dans cette brasserie, que le nazisme est né. Là qu'Hitler se fit inscrire comme septième membre d'un parti qui devait mettre le feu au monde. Les derniers SS ont brûlé la résidence où leur fureur combinait ses coups et convoquait ses victimes. On n'invitera plus à Berchtesgaden. Et les événements se précipitent. On annonce coup sur coup la mort des deux dictateurs. Mais si le cadavre de Mussolini a été offert au crachat du peuple italien, l'autre figure s'est enfoncée dans l'ombre. Il a fallu 5 ans pour en arriver là, 5 ans de nuit noire. Et c'est avec le sang des hommes et les pleurs des femmes qu'on a payé ce mot-là, victoire.
Nous étions ici avec le journal des actualités françaises le 11 mai 1945. Nicolas Offenstadt, victoire. Mais la victoire, c'est un moment entre précis. On peut donner des dates. D'ailleurs, le 8 mai est une date de la victoire. Mais le regard porté par l'historien oblige à s'intéresser à un ton plus long. Et pour l'antifascisme, rappeler aussi que l'antifascisme existe avant la Seconde Guerre mondiale et que les gens qui le portaient, pour certains, sont encore en vie. Et c'est très important, sans doute, d'imaginer ça, ces comités de vigilance, celui des intellectuels antifascistes, etc. Ça existait avant la guerre.
Bien entendu, hein, dans le fond, l'antifascisme naît quasiment au moment hein, où le fascisme existe et où il prend le pouvoir, donc en Italie. Hein, les premiers véritablement antifascistes organisés, ce sont les Italiens, et notamment les Italiens en exil, hein, qui vont fuir progressivement l'oppression qui se met en place en Italie. Donc effectivement, les antifascistes, ce sont les Italiens, ce sont les Français du Front Populaire, ce sont les Allemands. Hein, qui vont résister à Hitler, parce qu'il y a évidemment des Allemands qui vont résister à Hitler, hein, beaucoup parmi la gauche allemande, mais pas seulement, donc les communistes, les socialistes, qui, dans le fond, vont connaître un destin varié. Alors, il y a ceux qui sont en exil, évidemment, parce qu'il est très difficile, vous imaginez bien, pour des dirigeants communistes ou socialistes anti-nazis, donc antifascistes, de rester en Allemagne en 1933, donc ils fuient. Beaucoup, évidemment, en URSS, hein, quand on est communiste, parce que là, on y est en quelque sorte naturellement abrité, quoique ça dépend des périodes, on pourra y revenir. Il y en a qui fuient en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, qui fuient en Angleterre. Tout ça va avoir d'ailleurs un rôle dans l'histoire de la RDA plus tard, hein, la manière dont on était en exil. Et puis, il y en a qui sont arrêtés, qui sont déportés dans les camps, qui sont massacrés par les SS. Et il y a ceux qui arrivent à travailler plus ou moins difficilement dans la clandestinité. Donc il y a tout un monde antifasciste, hein, y compris sous le nazisme, qui subit évidemment les foudres de la répression, mais qui lutte. Hein, donc il y a véritablement toujours un antifascisme. Et le terme, évidemment, est très mis en avant à cette époque-là. Ce sont des gens qui luttent. Et évidemment, beaucoup ont été massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale ou auparavant dans les camps ou alors par les brutalités des SS. Hein, beaucoup ont été aussi assassinés individuellement. Et du coup, il en reste heureusement en 1945 un certain nombre, hein, soit qui reviennent du coup d'exil en Allemagne, soit qui peuvent sortir dans la clandestinité. Donc effectivement, hein, l'antifascisme, ce sont des gens bien réels en 1945 qui ont lutté au péril de leur vie dans tous les pays qui étaient occupés par les Allemands.
C'est important de le rappeler, et dans cette pensée antifasciste, il y a celle de l'Italien Antonio Gramsci, hein, mort en 1937, mais qui, lui, met le fascisme dans une lecture beaucoup plus large et qui l'associe au capitalisme. Il n'est pas le seul. Écoutez cette voix, Nicolas Offenstadt, j'espère que vous allez la reconnaître.
Die proletarische Diktatur, die in den verschiedenen internationalen kapitalistischen Ländern, sich in den verschiedenen Strecks gezeigt hat.
Cette voix venue de 1928, c'est un discours qui a été prononcé au Congrès des travailleurs de la métallurgie de Moscou. Alors ici, on a l'association, on l'a entendu, fascisme, et capitalisme. Vous avez reconnu ?
Ernst Thälmann, donc, qui était le dirigeant du parti communiste allemand et qui est un exemple de ceux qui ont été massacrés puisqu'il a été tué à Buchenwald en 1944. Donc, figure absolument iconique en RDA. Moi, dans l'histoire globale de la RDA que vous citiez, j'y consacre d'amples pages parce que c'était vraiment l'icône du régime, Ernst Thälmann, celui qui avait été dans les milieux populaires de Hambourg, sur les docks, sur les quais, qui ensuite avait été un des dirigeants du Parti communiste et de l'Internationale communiste. Et donc, du coup, c'est la figure absolue puisqu'il s'est un martyr. Du communisme. Donc effectivement, il y a aussi des figures comme ça, iconiques. Et d'ailleurs, en RDA, c'est très intéressant de ce point de vue-là, beaucoup des grands héros, beaucoup des noms de rues, des noms de places, des écoles, des gymnases, portent le nom de gens qui ont été des antifascistes, qui ont été assassinés par les nazis. Donc il y a une forme de nouvel espace public qui se crée en RDA et qui va porter le nom de gens qui sont aujourd'hui totalement oubliés, mais qui étaient à l'époque considérés comme des héros que tous les enfants étudiaient dans les écoles. Si je vous dis par exemple Werner Zellenbinder, personne va évidemment se souvenir de son nom, ou peu de gens. C'était un grand sportif qui a été lui aussi victime, et donc beaucoup de stades, de salles de sport en RDA portent son nom. Donc ces antifascistes, ceux qui sont morts, vont continuer en Allemagne de l'Est à en quelque sorte vivre à travers tous les discours du régime qui est porté sur eux. Il y en a d'autres. Celui qui était par exemple un des dirigeants de l'appareil militaire du Parti communiste, parce qu'il fallait aussi résister au fascisme lorsqu'il montait, Ernst Schneller, lui aussi a été victime du nazisme dans les camps. Et c'est une figure qu'on voit partout dans les livres, dans les écoles, dans les noms de rue en RDA. Donc oui, c'est tout un monde aussi cet antifascisme de lutte.
Avec l'évocation des écoles, Nicolas Hoffenstadt, ça nous fait comprendre comment la dénazification et la lutte contre le fascisme, c'est quelque chose d'institutionnalisé, en tout cas en République démocratique allemande. J'imagine que c'est pareil en RFA, dans le même mouvement.
Oui et non, parce que, bien sûr, l'épuration, elle a lieu des deux côtés. Le travail de démocratisation, qui est conçu très différemment, évidemment, dans une dictature comme l'Allemagne de l'Est ou en RFA, mais il y a effectivement un travail qui n'est pas seulement celui de renvoyer les nazis chez eux, d'ailleurs de moins en moins, parce qu'il faut bien que les économies et les administrations tournent. Et puis aussi, il faut éduquer. Il faut éduquer à la jeunesse. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a un paramètre qui est très important et qui va marquer la RDA, c'est que la RFA aussi, d'ailleurs, c'est même la RFA peut-être en premier, c'est qu'il faut lutter contre le communisme. Donc du coup, c'est pas seulement une éducation, évidemment, à la démocratie contre ce qui s'est passé à l'époque du nazisme, c'est aussi contre l'ennemi qui est en face. Et l'ennemi en face devient, au moment les plus durs de la guerre froide, dans les années 50, l'ennemi, c'est le communisme. Le nazisme, évidemment, surtout beaucoup l'ont été ou en tous les cas l'ont supporté. Donc du coup, l'anticommunisme est quand même devenu en RFA quelque chose de très important qui va parfois éclipser l'antifascisme, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, en RDA, en Allemagne de l'Est, parce que là, c'est central dans la politique du régime. Et quand je dis c'est central, je vous évoquais à l'instant un nouvel espace public, donc les rues, les places, etc. Mais c'est aussi le cas dans les écoles, c'est aussi le cas dans les formations. Vous avez tout un ensemble de petits musées qui sont consacrés, on appelle ça des cabinets de tradition. C'est un joli terme, parce que c'est pas véritablement des musées, où vous avez des reliques des antifascistes, vous avez des photos qui sont... Et donc, dans les écoles, dans les salles de sport, dans les casernes, vous avez ces cabinets de tradition qui racontent la vie des antifascistes. Alors, c'est un récit qui est très orienté, évidemment, mais qui est quand même très important. Donc, l'antifascisme, c'est vraiment le discours du pouvoir, c'est le discours qui est partout, à tous les niveaux de la pédagogie. Il y a des cabinets de tradition dans les grandes usines aussi, il y en a dans les casernes. Donc, tout le monde, en RDA, est familier, non seulement de ce qu'est le fascisme et l'antifascisme, mais aussi des figures qui l'ont incarné, parce qu'il faut les incarner. Et d'ailleurs, c'est une muséographie d'ailleurs qui restait souvent en Allemagne. Ils aimaient bien la reconstitution aussi. Donc on reconstituait les cellules, on reconstituait des scènes de genre qui étaient liées à la lutte contre le fascisme. Donc il faut imaginer que la population de RDA a grandi, a été élevée avec l'idée qu'il y a un modèle absolu qui est l'antifascisme, soutenu évidemment par l'URSS, qui est de toute façon la figure centrale de tout récit historique aussi.
Est-ce qu'il y a un rapport particulier au passé nazi entre la RDA et la RFA? Ou pour le dire autrement, est-ce que la RDA va très vite se présenter comme un pays qui a réussi vraiment à complètement dénazifier?
Oui, absolument, parce que pour plein de raisons en fait. D'abord parce qu'il y a une raison idéologique et on pourrait dire une raison analytique, c'est-à-dire qu'est-ce que le fascisme d'abord, hein, pour s'y opposer. En RDA, il y a une lecture unique, pour le pouvoir j'entends, qui est l'analyse dans le fond en marxiste assez traditionnelle. On le voit dans les manuels scolaires, j'en lisais en pensant à l'émission, je le relisais un manuel scolaire des années 80. Quand on ouvre la page sur le nazisme, ça commence par l'interprétation marxiste canonique en disant le fascisme, c'est les partis les plus radicalisés du capitalisme et de la finance, hein, qui se sont alliés donc avec les partis nazis. Donc c'est bien clairement, hein, le capitalisme qui est dans le fond responsable. Alors, ce qui pose des questions, évidemment, interprétatives. Mais donc, l'interprétation, elle est claire. Et dans le fond, ça renvoie à Marx et aux 18 Brumaire. Hein. C'est l'idée, dans le fond, qu'à un moment donné, lorsque la bourgeoisie est aux abois, elle va chercher un dictateur pour défendre ses intérêts. Donc, il y a toujours eu une interprétation marxiste. Hein. Donc, c'était l'arrivée de Louis-Napoléon, période qui vous est chère. Napoléon III, dans le fond, dans l'analyse marxiste, c'est celui qui va sauver la bourgeoisie aux abois. Il y aura eu des interprétations de la guerre de 14 comme ça aussi. Dans le fond, c'est la bourgeoisie de 14 aux abois qui va utiliser la guerre, hein, en quelque sorte, et la violence politique pour se défendre. Et donc l'interprétation marxiste, après, donc du coup, du nazisme et du fascisme, ça c'est le grand capital qui a besoin, hein, d'utiliser des forces les plus réactionnaires pour garder le pouvoir. Et ça c'est le discours officiel en RDA. Donc il y a une analyse déjà, hein, qui est celle qui est très différente évidemment de ce que vous allez trouver dans les cercles du pouvoir en RFA. Et je fais une parenthèse, ces cercles du pouvoir en RFA, donc en Allemagne de l'Ouest, démocratique, c'est des gens aussi qui ont eu beaucoup plus de responsabilités sous le nazisme. Hein, c'est-à-dire que là, il y a quand même aussi, il n'y a pas seulement une différence d'analyse, hein, d'un côté le marxisme, de l'autre une démocratie libérale, il y a aussi que dans les cercles du pouvoir à Bonn, hein, puisque Bonn est alors la capitale, hein, si Berlin l'est pour la RDA, vous avez des gens qui ont été de bons et gros nazis, ce qui est évidemment impossible dans les cercles dirigeants du pouvoir en RDA. Donc il y a aussi une différence, hein, de type de personnalité. Donc les gens louvoient aussi différemment. Donc vous voyez, différence complètement d'analyse, puisque d'un côté vous avez un antifasciste marxiste, fondé sur l'analyse marxiste, de l'autre vous avez un anticommuniste qui est très important, même si évidemment on démocratise le pays. Donc différence, et puis différence aussi de position. Et il y en a encore une autre, qui est assez intéressante d'ailleurs, parce qu'elle est encore débattue aujourd'hui. On dit dans le fond, la RFA a mieux fait le travail pédagogique, a mieux fait le boulot de dénazification mentale que la RDA. Donc là, il y aura encore une troisième ou une quatrième différence. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la chose suivante, c'est que à partir du moment où le fascisme, comme je viens de vous l'expliquer, c'est le grand capital qui est derrière. Ben, dans le fond, les Allemands ordinaires n'ont pas une grande place. Ils sont que des jouets, des victimes, hein, des forces qui les dépassent. Donc pas la peine de s'intéresser à la vie quotidienne, pas la peine de s'intéresser aux questions d'adhésion qui étaient nazies, qui ne l'étaient pas. Donc quand vous lisez ce même manuel scolaire que j'évoquais, de quoi parle-t-on ? On parle évidemment de l'arrivée au pouvoir, des relations internationales, des annexions, de la guerre, hein, donc les faits généraux, ça c'est partout pareil, hein, il faut donner le cadre. Mais quand on parle du nazisme lui-même, on parle de la répression, de l'oppression, et notamment de l'oppression des communistes, et de la résistance. Par contre, les Allemands ordinaires, ce qui s'est passé, l'adhésion, les effets de la propagande, tout ça en RDA, c'est très très peu thématisé, puisque de toute façon, c'est le grand capital, hein, avec des forces réactionnaires. Donc il faut voir comment les communistes ont été opprimés, comment eux ont résisté. Donc il y a des pages entières sur la résistance, et la résistance communiste surtout, hein, mais pas sur ce que c'était que dans le fond le nazisme dans la population, sur ce que c'était que le lien entre le pouvoir et la population. Alors qu'évidemment, il y a eu quand même un travail plus profond par certains côtés, en RFA. Donc ça peut être aussi une différence. Et d'ailleurs, ça pose des questions aujourd'hui en se demandant si les différences entre l'Est et l'Ouest ne sont pas liées aussi à ces enjeux de mémoire. Mais c'est un autre sujet.
Oui, mais c'est un autre sujet passionnant, Nicolas Offenstadt, avec l'état de la dénazification à la veille de la naissance de la RDA, l'Allemagne de l'Est.
À Potsdam, les trois grands d'alors, qui étaient vraiment de grands bonshommes, n'avaient pas eu de peine à se mettre d'accord sur les principes qui devaient être ceux du gouvernement assumés en commun de l'Allemagne. Ces principes étaient la dénazification, la démocratisation et la décartellisation, c'est-à-dire la destruction des hautes bastilles de l'industrie lourde allemande. Le désaccord s'est manifesté dans la méthode de mise en pratique de ces principes. Les occupants russes et les communistes allemands, qui, grâce à la présence soviétique, sont la minorité agissante en zone orientale, sont des marxistes. Et ils raisonnent en tant que tels. Pour eux, faire de l'Allemagne une nation démocratique, cela ne consiste pas seulement à châtier quelques criminels de guerre, ce qui pour eux importe le plus, c'est détruire les racines du fascisme, c'est-à-dire supprimer la base économique du militarisme allemand. Le rideau de fer, cette frontière qui coupe l'Allemagne, l'Europe et peut-être le monde en deux, Ce rideau est plus ou moins en fer, plus ou moins écarté selon les circonstances politiques. Ce qui est certain cependant, c'est que ce fameux rideau marque la limite, en même temps que le point de rencontre, de deux conceptions de l'existence radicalement opposées, vérité en dessous, erreur en dessous.
C'est le journaliste Pascal Copeau, en juillet 1948, qui évoquait la dénazification et dans le même temps, il évoque le rideau de fer. C'est-à-dire que, nous sommes très tôt hein, déjà, que l'Allemagne est divisée en deux. Un peu plus d'un an plus tard, en octobre 1949, que naît la RDA. Vous nous avez dit, Nicolas Offenstadt, que parmi les dirigeants de la RDA, nous n'avions pas de personne avec un passé nazi, c'est-à-dire que là, nous avons des exilés, des gens qui se trouvaient en URSS, notamment pendant la guerre, on peut le voir comme ça, ce qui n'est pas le cas en République fédérale d'Allemagne. Cela ne veut pas dire qu'en RDA, il n'y a aucun responsable ou en tout cas personnel politique qui peut se dire complètement affranchi du nazisme.
Alors, il faut un peu distinguer, parce que c'est une question délicate qui a fait l'objet de débats récents. Dans le fond, il y a des gens qui se sont dit « Oui, mais il y avait des nazis en RDA ». Mais bien sûr qu'il y avait des nazis. Alors, comment voulez-vous qu'il en soit autrement hein, puisque l'Allemagne est donc divisée en plusieurs zones, d'ailleurs, puisqu'il y a plus que la RDA et l'Ouest, puisqu'il y a aussi les zones hein, qui sont notamment livrées à la Pologne ou à l'URSS. Donc l'Allemagne est divisée, et il y a des nazis partout. Donc la question n'est pas là. La question, c'est qui a le pouvoir. Et en RDA, au sommet du pouvoir, hein, donc dans le sommet du parti communiste, hein, voilà, le SED, pour aller vite, évidemment, ceux qui dirigent, donc le bureau politique, le comité central, ne peut pas avoir de grands nazis. Vous pouvez avoir des gens qui ont adhéré au parti, hein, qui ont eu leur carte, évidemment, ou qui ont joué des rôles tout à fait secondaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais il peut y en avoir. Hein. Il y a quelques ministres, hein, notamment, qui ont été adhérents, mais certains très tard. Hein, on évoquait ceux qui ont adhéré en 43-44, je nomme. Mais vous ne pouvez pas avoir, hein, parmi les grands dirigeants du parti, des gens qui ont été des nazis d'importance. Hein. Les deux dirigeants principaux de la RDA, Walter Ulbricht d'abord, et ensuite Erich Honecker, sont des gens, l'un qui a été en exil en URSS et l'autre qui a été persécuté par les nazis, qui a été emprisonné en Allemagne, dans les camps, etc. Donc c'est plutôt ce modèle-là, hein, c'est le modèle. Et quand on prend, ça a été bien étudié, hein, quand on prend les dirigeants régionaux par exemple, hein, donc la circonscription que va instaurer la RDA pour casser les anciennes circonscriptions, c'est le district, hein, ça s'appelle Bezirk en allemand. Ben, si vous prenez les chefs des Bezirke, des districts, hein, y a beaucoup ont été déportés. Hein, donc vous avez quand même une élite hein, de gens qui arrivent avec l'antifascisme dans leur histoire, que ce soit l'exil ou que ce soit les camps. Alors bien sûr que vous avez des nazis. Moi qui ai fait de l'urbex en Allemagne de l'Est, donc ai visité des lieux abandonnés, des usines abandonnées, parfois j'ai trouvé les dossiers des ouvriers, des employés. Et dans ces dossiers, comme on est en Allemagne de l'Est, donc un pays évidemment qui surveille, avec une surveillance politique très importante, j'ai regardé ces dossiers en urbex, dans des usines à la torche, il y a beaucoup de gens hein, qui indiquent qu'ils ont été au NSDAP, on le voit sur leurs dossiers, c'est forcé. Des directeurs d'usines, par exemple, hein, j'en ai vu à Francfort-sur-l'Oder, dans une brasserie, hein, il y avait le dossier, il y avait plusieurs des dirigeants de l'usine hein, qui indiquaient qu'ils avaient été NSDAP. Il y en a même qui étaient dans la SA. Donc vous allez en trouver, bien entendu. Hein, mais ce ne sont pas du tout eux qui dirigent le pays. Et souvent, ce sont des gens qui ont eu des responsabilités modestes. Et si l'un a menti, hein, si on découvre hein, qu'il avait des responsabilités plus importantes ou qu'il a eu un rôle militaire aussi plus important qu'il n'a dit, notamment qu'il a été décoré ou qu'il a eu des responsabilités plus importantes, hein, il arrive qu'il soit démis. Donc, on peut dire clairement que l'épuration en Allemagne de l'Est, elle a été plus rapide, d'abord par les soviétiques, puis par le régime de la RDA en 1945. Elle a été plus profonde. Hein, et elle a été plus rigoureuse. Plus, hein, ça ne veut pas dire qu'elle a été parfaite, mais il y a quand même une différence, si vous voulez, pour cette raison-là. Parce qu'on ne peut pas prétendre être l'État antifasciste, hein, seriner toute la journée à sa population qu'on est ceux qui avons porté les valeurs allemandes hein, de lutte, de courage, etc. Et évidemment, être ensuite donné la place la plus importante à des gens qui sont des anciens nazis. Donc ça, c'est quand même un élément très important. Maintenant, il faut évidemment nuancer. Vous avez plein de nazis, d'anciens nazis, dans le SED. Il y a un chiffre, mais bon, les chiffres, c'est toujours difficile, hein, parce qu'il y a des gens qui cachent leur appartenance. D'autres, voilà, on n'a pas toujours tout. Il y a un chiffre qui donne plus de 8% des membres du Parti communiste qui ont appartenu au Parti nazi. Donc, c'est quand même... Il y en a. Hein, donc, c'est évident. Il y en a parfois qui ont été plus engagés. Donc, il y en a forcément, mais c'est quand même très différent. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais alors s'il y en a là, qu'est-ce qu'il y a à l'Ouest? À l'Ouest, ils sont au plus près du pouvoir, les anciens nazis. Hein, il y a un cas qui est très célèbre, et d'ailleurs que la RDA a beaucoup instrumentalisé. Je reviendrai dans un instant, si vous permettez, sur les questions d'instrumentalisation. C'est que, à des plus proches conseillers d'Adenauer, hein, donc le dirigeant, évidemment, de l'Allemagne de l'Ouest, un des plus proches conseillers, Hans Globke, était un de ceux qui a rédigé les textes antisémites des nazis, notamment les lois de Nuremberg. Il est le conseiller le plus proche, hein, du dirigeant du gouvernement allemand, Konrad Adenauer. Donc, vous avez des ministres, hein, qui ont été des nazis, qui ont participé aux exactions en Ukraine lorsque après 1941. Donc, ces gens-là, ils sont au cœur du pouvoir. Hein. Et même le président de la République fédérale, hein, Lübke, était aussi un ancien nazi d'une importance relative. Donc, c'est pour vous dire quand même qu'il y a quand même une différence. Donc, on ne peut pas dire que c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à côté de l'autre. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, il y a quand même un clivage très net, hein, entre la politique de dénazification à l'Est et à l'Ouest. C'est exact. Ce qu'il faut rajouter pour être complet, si on peut l'être, hein, dans un temps bref, même si on a ici le plaisir de pouvoir développer un peu, c'est que la RDA, lorsqu'elle poursuivait les anciens nazis, était souvent très instrumentale. Hein, c'est-à-dire qu'il fallait que ça l'arrange aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir tout rose d'un côté et tout noir de l'autre. Je vais vous donner deux exemples de cette instrumentalisation. Quand on découvre qu'il y a beaucoup de médecins qui ont été des grands nazis, qui ont participé notamment au programme d'euthanasie dans une clinique de Thuringe. Ben, c'est un peu gênant parce que ça veut dire que dans le fond, on les a laissés pendant des années occuper des postes très importants, donc on s'arrange, hein, pour que cette affaire-là soit pas trop ébruitée, parce que ça risquait d'abîmer l'image de la RDA à ce moment-là. Hein, donc il y a des procédures quand même, hein, qu'on amoindrit ou qu'on détourne pour ne pas abîmer l'image. Et là, donc ça c'est l'instrumentalisation interne, mais il y a surtout, beaucoup plus important, une instrumentalisation externe. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, c'est pas juste une analyse d'historien, c'est que la RDA a porté le fer en permanence en disant « Vous êtes des nazis, vous êtes toujours des nazis, on va vous le montrer ». Et comment est-ce qu'ils ont fait pour le montrer ? Ben, ils les ont comptés et ils les ont mis dans l'espace public. Notamment, il y a un moment célèbre que tous les amateurs de brocante retrouveront, c'est le Livre Brun. Le Livre Brun qui a été traduit dans toutes les langues, c'est la liste, hein, c'est 1965, c'est la liste de tous les nazis qui sont en poste en Allemagne de l'Ouest, par administration. Hein, donc l'armée, la justice, etc. Vous avez la liste et vous avez les noms. On est en 1965, donc c'est des gens qui ont le pouvoir, hein, qui agissent, qui sont juges, qui sont généraux, qui sont militaires, qui sont ministres pour certains. 21 ministres quand même, hein, dans la
liste.
C'est
beaucoup.
Hein, pour l'Ouest. Donc, qu'est-ce que fait la RDA ? Elle fait cette liste, qui n'a d'ailleurs jamais été contestée. Hein. On a contesté évidemment les intentions, mais personne n'a dit c'est faux, c'est des gens qui sont, n'existent pas ou qui n'auraient pas eu ces postes-là. Donc le comptage, il y a toujours des erreurs, hein, quand vous faites des listes comme ça, mais globalement, hein, c'était à peu près ça. Et donc, du coup, ils ont diffusé ce livre, hein, mais partout dans le monde. Hein, il y a des traductions dans plein de langues, etc. C'est évidemment beaucoup lu à l'Ouest, parce que les antifascistes de l'époque voulaient voir qui étaient les salauds qu'ils avaient en face. Et donc, du coup, il y a toute une propagande, hein, qui est organisée pour montrer que les nazis, ils sont bien restés à l'Ouest, alors qu'en RDA, ce qui, on l'a vu, largement vrai, mais pas complètement, eux ont disparu. Donc, c'est un véritable enjeu de guerre froide aussi.
Oui, et puis au cœur de la guerre froide, on le sait bien, à l'intérieur de chaque bloc, il y a des tensions et des divisions. Pour le bloc de l'Ouest, nous les connaissons bien. Bah, il y a des communistes, hein, qui sont même au pouvoir à un moment en France. Et puis, c'est la vie politique et c'est ainsi. Mais dans le bloc de l'Est aussi. Alors, vous avez utilisé, Nicolas Hoffenstadt, le mot dictature, hein, pour parler de la RDA. Et là, comment s'exprimer, parfois par la grève.
Suivant la version soviétique, la répression aurait frappé exclusivement des provocateurs envoyés d'Allemagne occidentale et ceux des ouvriers qui les auraient suivis. Suivant les autorités d'occupation en Allemagne occidentale et le gouvernement de Berlin-Ouest au contraire, la provocation serait inventée de toutes pièces pour camoufler les vraies causes de la révolte et la répression, exercée d'abord par la police populaire, puis par les troupes russes avec leurs armes lourdes, seraient intervenus pour arrêter brutalement la révolte spontanée du peuple. Une troisième version, assez répandue, suppose à l'origine des manifestations ouvrières une impulsion secrète des autorités soviétiques d'occupation en vue de discréditer le personnel gouvernemental, bientôt suivi d'épouvante devant l'ampleur du mouvement.
Trois interprétations pour expliquer les grèves de 1953 en Allemagne de l'Est par Emil Kahn, le président de la Ligue des droits de l'homme. Et ici, c'est passionnant d'entendre cela parce qu'il y a un mouvement de grève. Dès lors, il faut le comprendre. Donc déjà, pourquoi pas des fascistes venus de l'Ouest qui sont venus un peu mettre le bazar?
Oui, alors c'est un événement absolument décisif de l'histoire de la RDA pour plein de raisons. Le 17 juin 1953, c'est une immense révolte contre les conditions économiques et sociales, une révolte populaire, et notamment contre l'augmentation des normes. Alors le contexte est difficile économiquement à cette époque, et effectivement ce qui est très frappant, c'est que ce régime qui se voulait celui des ouvriers et des paysans voit ses ouvriers, ça commence d'ailleurs sur un chantier à Berlin, notamment les premières grèves, mais ça va s'étendre dans tout le pays, vont voir ses ouvriers se révolter. Faire grève, manifestation dans les usines, dans les rues. Et donc, c'est évidemment un traumatisme pour le pouvoir, puisqu'il se veut le pouvoir des ouvriers. Et donc, évidemment, ça va être très difficile à gérer et ça va être réprimé dans le sang, et notamment avec l'aide des soviétiques. Alors, évidemment, il y a un débat d'interprétation qui est très important, qui est de dire, à l'Ouest, on dit, ce régime, cette dictature communiste, elle assure pas le bien-être de sa population. Et quand sa population se révolte, soi-disant, ces gens qui sont démocrates et populaires, finalement, leur envoie les chars soviétiques avec des morts, des arrestations et la répression. Et effectivement, de l'autre côté, et c'est là où on voit le basculement, le pouvoir communiste, ça c'est en fait un complot. C'est un complot qui vient de l'autre côté, surtout qu'on est à Berlin, ça commence à Berlin. Donc Berlin, n'oubliez pas, c'est une ville qui est partagée entre l'Est et l'Ouest. Donc c'est facile de passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Donc on dit, tout ça, c'est des conspirateurs, c'est les radios américaines. D'ailleurs, regardez, il y avait des messages qui disaient très clairement qu'il fallait déclencher l'insurrection. Donc dans le fond, c'est un complot de l'Ouest, c'est un complot fasciste. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça a été une interprétation qui est restée très très puissante. Cette idée que dans le fond, il ne pouvait pas y avoir une révolte à l'Est, donc c'est forcément un complot. Même si dans le fond, sans doute, certains savaient très bien que non. Parce qu'évidemment, ils avaient été sur le terrain. Et d'ailleurs, on n'a pas trouvé ces fameux comploteurs. Même la Stasi a été obligée de dire dans ses rapports qu'elle n'a pas trouvé véritablement un nœud complotiste qui aurait déclenché l'insurrection. Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en même temps, pour certains persécutés, pour certains qui ont vu et connu le nazi, certains qui vont dire, notamment je pense au linguiste Victor Klemperer, ils vont détester cette foule qui reprend la rue. Ils se sont dit, ça me fait penser aux braillards nazis. Donc vous voyez, il y a des gens aussi pour qui, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc ce peuple qui se révolte contre le pouvoir communiste, c'est compliqué. Qui sont-ils vraiment? Il y a même des gens qui ne sont pas forcément des dirigeants, qui vont avoir une forme de réticence face à cette révolte. Donc, et en tous les cas, c'est un événement fondateur. C'est d'ailleurs devenu la fête nationale à l'Ouest, pour vous dire qu'on est en pleine guerre froide, le 17 juin. Donc du coup, c'est véritablement un nœud. Et pourquoi je dis que c'est un nœud? Pas simplement pour ces questions d'interprétation, c'est parce que le pouvoir va être traumatisé. Donc plus jamais de 17 juin. Donc ça va aussi, dans le fond, servir les populations des RDA, parce qu'il faudra leur donner aussi un certain contentement économique et social pour ne pas voir de nouveau 17 juin. Et on retrouve dans les archives, en 1989, au moment où les choses commencent à bouger, qui vont conduire à la chute du mur, y a des tas de discussions dans la Stasi, ils disent « vous inquiétez pas, on est prêt, ce sera plus le 17 juin ». Bon, ça a pris une autre tournure, mais c'est pour vous dire que c'est devenu vraiment obsessionnel parmi le pouvoir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, dans les dossiers dont je vous parlais, des dossiers individuels que j'ai trouvés, très souvent, pendant longtemps, vous avez une évaluation de ce qu'ont fait les gens le 17 juin. C'était une forme de test de la fiabilité. Et je me rappelle d'un dossier où il était marqué « rien à lui reprocher pour le 17 juin ». Et on est des années après. Donc c'est vous dire que c'est évidemment un événement fondateur et traumatique parce qu'il paraît tellement à contre-courant pour le pouvoir qu'il a évidemment des conséquences très importantes.
Et puis vous l'avez évoqué, Nicolas Hoffenstadt, mais on l'entendait dans l'archive parmi les explications avancées par Emil Kahn pour expliquer cette grève de 1953, ou plutôt comment lui rapporte des choses qu'il a entendues. Il y a l'idée que peut-être venus du RSS, des gens sont arrivés en Allemagne de l'Est et ont voulu agiter les choses. Et vous nous l'avez dit, l'antifascisme tel qu'il est en RDA, et en tout cas les dirigeants de la RDA, porteurs de cet antifascisme, ne sont pas toujours aussi bien perçus que cela, vu de Moscou. Et le rapport ici est complexe.
Bien entendu, en fait, parce que dans le fond, l'Allemagne, c'est un pays particulier au sein, pour plein de raisons, vous imaginez bien, au sein du bloc de l'Est. D'abord, c'est le pays de Marx. C'est le pays qui n'a pas attendu, évidemment, la révolution russe de 1917 pour avoir des fondements idéologiques communistes extrêmement solides. Donc, il y a aussi une certaine suffisance, une certaine sûreté des communistes qui ont une vieille histoire Hein. Et c'est pour ça que dans l'histoire globale, je dis, il faut pas simplement commencer l'histoire de la RDA en 45 ou en 49. Hein. C'est l'histoire aussi d'une partie du mouvement ouvrier allemand, hein, qui a évidemment ses certitudes, ses manières de voir. Et on le voit dans l'écriture de l'histoire où, évidemment, on essaie de dire, nous, on a quand même, hein, bien sûr qu'il y a la grande, on n'ose surtout pas contester hein, le magistère de l'URSS, hein, mais il y a une histoire allemande, il y a une histoire de la Révolution allemande, et donc du coup, ça c'est, donc déjà, c'est pas exactement le même cas de figure que la Roumanie ou que la Bulgarie, hein, quand on est en Allemagne. Deuxième élément, évidemment, c'est quand même l'Allemagne des nazis. Donc pour les Russes ou pour les Polonais, ça a beau être le régime communiste, hein, c'est quand même ceux qui sont les héritiers aussi de l'Allemagne nazie. Donc il peut y avoir des ambiguïtés. Et d'ailleurs, c'est très intéressant les rapports entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne. Hein, Pologne qui a évidemment subi les misères du nazisme sous toutes ses coutures et qui a donc un rapport encore parfois tendu, alors que pourtant c'est censé être de bons communistes des deux côtés, qui a des rapports parfois tendus avec l'Allemagne de l'Est. Et d'ailleurs, j'ai lu parmi les livres que j'ai lus pour l'histoire globale de la RDA, j'ai lu évidemment beaucoup de témoignages, mais j'ai lu les témoignages d'Erwin Weidt, qui était le traducteur des Allemands qui allaient en Pologne. C'est un Polonais, au départ, voilà, proche du gouvernement polonais, puis ensuite, voilà, il s'en éloignait, et qui traduisait donc chaque fois qu'il y avait les Allemands de l'Est. Et lui, il est évidemment souvent rétif, hein, parce que ces Allemands, pour lui, c'est aussi les Allemands, hein, qui sont aussi d'anciens nazis, d'autant qu'il y en a parfois aussi, comme je le disais, qui arrivent dans les wagons de la délégation d'Allemagne de l'Est. Donc vous voyez, il y a quand même une mémoire particulière de l'Allemagne qui fait qu'au sein du bloc de l'Est, alors ensuite je pourrais développer longtemps, mais ensuite évidemment il y a des tensions économiques, sociales, etc. Et il ne faut pas avoir des idées de bloc trop monolithique. Évidemment, il y a celui qui domine, hein, l'URSS, qui domine économiquement, politiquement, et auquel il est difficile d'échapper. Mais il y a des tas de manières, hein, de jouer avec les limites, de contrôler des aspects et pas d'autres, etc. Donc il faut évidemment rentrer dans le détail. Et c'est d'ailleurs souvent assez intéressant, les marges de négociation, comme toujours.
Oui, parce qu'en plus, nous sommes dans la période où en URSS existent les goulags. Et c'est cette période où tout opposant peut être complètement exclu, déporté jusqu'au goulag, avec des accusations. Nicolas Offenstack, la plus efficace est d'être fasciste. Pour vous le demander autrement, est-ce que c'est dans ces années-là, les années 1950, qu'on voit s'imposer une nouvelle définition du fasciste? Le fasciste, c'est celui qui ne correspond pas aux idées portées par le pouvoir en RDA ou ailleurs. Être capitaliste, c'est être fasciste.
Oui, tout à fait. Et si vous me permettez un petit retour en arrière, effectivement, Il y a un épisode qui est central dans cette histoire aussi, c'est que, comme je vous le disais, sous le fascisme, beaucoup de communistes allemands ont été exilés en URSS, où ils attendaient évidemment la protection. Or, au lieu de protection, c'est l'époque des grandes purges. Et parmi ceux qui ont été le plus purgés et qui ont subi véritablement un cauchemar, c'est les communistes allemands, pour des raisons de politique liées à Staline. Et donc, ceux qui reviennent en exil, d'exil après 45, et qui donc vont exercer le pouvoir en RDA, c'est ceux qui ont échappé aux grandes purges. Donc parfois, c'est pas forcément hein, les moins malhabiles. Donc dans le fond, et le cauchemar qu'ont vécu beaucoup de communistes allemands, c'est une histoire qui peut paraître hallucinante hein, quand on la lit. Des gens qui étaient très fidèles, évidemment, hein, des communistes les plus fidèles, hein, mais qui ont connu la déportation, le goulag, les violences dans les années 30, et qui parfois, au plus fort de la guerre froide, hein, ils sont restés, ils sont revenus. Hein, donc il y a toute une violence hein, qui s'exerce, particulièrement contre les communistes allemands à l'époque de Staline, et qui va faire des destins qui, quand on les lit, j'en cite quelques-uns, il y en a d'autres, hein, qui sont assez incroyables, parce que c'est des gens qui, évidemment, étaient dans la fidélité au Parti communiste, et qui ont subi l'arbitraire du stalinisme, hein, et qui ont été parfois, après, hein, même à l'époque de l'occupation soviétique en Allemagne, hein, entre 45 et 49, hein, qui ont été renvoyés, là aussi, dans des camps en URSS, en Sibérie ou ailleurs.
Et puis avec cette accusation, c'est vrai, de fascisme...
J'ai pas répondu sur cet aspect, on va y revenir.
Bah oui, mais c'est ça, maintenant, être fasciste, c'est être même accusé de tout, en fait.
Oui, alors, de tout et pas de tout. En fait, il y a principalement, vous avez tout à fait raison de dire que le terme de fasciste, à partir des années 50, il va désigner, pour, notamment à gauche, l'adversaire. Alors, l'adversaire, ça peut être trois choses. Ça peut être simplement ceux qui mènent une politique conservatrice, parfois répressive. Hein, je vous ai dit, l'anticommuniste est quand même très important. Le Parti communiste va être interdit, les jeunesses communistes vont être interdites à l'Ouest. Hein, donc, il ne faut pas non plus imaginer qu'on a une démocratie pleine et parfaite. Hein. Il y a de la répression, etc., politique aussi, à l'Ouest. Et donc, du coup, les fascistes, c'est ceux qui mènent une politique conservatrice, hein, qui mène une politique antisociale. Donc ça peut être la démocratie chrétienne en Italie, ça peut être les gaullistes en France, ça peut être évidemment les dirigeants d'Allemagne de l'Ouest. Donc on peut dire que c'est les franges conservatrices qu'on juge menant une politique antisociale et répressive. Ça, c'est la première définition du fascisme dans les années 50 et encore 60. Hein, donc le fascisme, dans le fond, c'est tous ces conservateurs. Deuxième élément, c'est aussi, et ça c'est intéressant pour l'Allemagne de l'Est, on en a parlé, c'est aussi de fait ces fascistes qui sont toujours là. Donc quand on dit l'Allemagne de l'Ouest est fasciste, c'est pas seulement parce qu'elle mène une politique que les gens de gauche trouvent insuffisamment progressiste, c'est parce qu'elle est menée aussi, comme je vous le disais, par un président de la République qui est un ancien nazi, par un conseiller d'Adenauer qui est un ancien nazi, par un ministre des réfugiés qui est un ancien nazi, par des tas d'autres gens. Donc ça, c'est aussi très... Et c'est la même chose en Italie. Hein, vous avez aussi des anciens fascistes hein, qui vont retrouver des postes importants, hein, qui vont jouer un rôle important. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand il va y avoir parfois d'ailleurs des confrontations avec ces anciens nazis. Je pense à un épisode, c'est lorsque en Allemagne de l'Ouest, lorsque les terroristes d'extrême gauche vont enlever le chef du patronat, Hans-Martin Schleyer, 1977. Ben, qui c'est ce Schleyer? On est dans les années 70, on peut dire, hein, on commence à s'éloigner des mémoires de la guerre. Sauf que c'est un ancien nazi. Hein, en tous les cas, c'est quelqu'un qui a servi le régime nazi à Prague, hein, qui était chargé de questions économiques. Donc vous imaginez, hein, quand on se confronte à ça, c'est pas seulement des méchants fascistes, c'est aussi des gens hein, qui ont eu un passé parfois. On est dans les années 70, hein, vous avez été relativement jeune sous le nazisme. Ben voilà, chef du patronat, c'était quelqu'un hein, qui avait participé à l'exploitation économique hein, de la Tchécoslovaquie à l'époque où elle a été occupée par les nazis. Donc vous voyez. Et puis, troisième élément quand même qui est très important, donc il y a les conservateurs qu'on déteste, il y a les véritables anciens fascistes ou anciens nazis, et puis il y a aussi la montée de l'extrême droite, qui reprend hein, parfois certains traits du fascisme, soit dans son idéologie, soit dans sa violence. Hein, donc c'est le cas, on va le voir partout, hein, on va le voir pendant en France, hein, avec la naissance de différents groupes, groupuscules d'extrême droite. Hein, on va le voir aussi moins en Allemagne, parce que là, le travail de dénazification est un peu différent. On va le voir évidemment en Italie, hein, avec le MSI. Et donc du coup, quand on dénonce les fascistes, hein, ça peut être aussi hein, les néo-fascistes, hein, ceux qui sont en train de récupérer une partie plus ou moins ouverte de l'héritage.
C'est extrêmement clair, hein, Nicolas Hoffenstadt, parce que désormais, ce mot fasciste désigne, vous l'avez bien dit, bah, c'est néo-fasciste, néo-nazi, bah, ceux qui l'étaient vraiment parce qu'ils sont toujours en vie, et puis les conservateurs. Là, nous sommes en 1958, il y a un référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution.
Bernard, s'il te plaît, fais-moi plaisir pour une fois. Arrête de lire ce journal de fasciste.
Ah non, tu vas pas remettre ça, non? J'ai vraiment plus envie de me disputer ce soir. Tu veux que j'éteigne?
T'as qu'à pas voter pour qui tu sais. Fasciste.
De Gaulle, un fasciste. Qu'est-ce qu'il vous a fait?
Mais il nous a fait qu'il veut vendre la France aux Américains.
Bon, il t'a fait des confidences à toi?
Quand même pas compliqué à comprendre. Hein. Les Américains sont en perte de vitesse, alors ils ont besoin d'alliés pour faire face à la concurrence impitoyable de l'URSS, et De Gaulle leur a promis la France.
Les Américains en perte de vitesse depuis quand, s'il te plaît?
Depuis, entre autres, que les vaches soviétiques font plus de lait que les vaches américaines.
Plus de lait?
Deux fois plus. Et c'est scientifiquement prouvé. Tu crois quand même pas que Roosevelt aurait laissé De Gaulle venir à Yalta si c'était pas mis d'accord avant?
Et dire que tu es ma femme.
Eh oui, Josiane Balasko, Maurice Benichou, dans le superbe film de Jean-Jacques Zilberman, c'est « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes ». Nicolas Hoffenstadt, l'utilisation d'ailleurs de ce mot « fasciste » pour désigner beaucoup de choses couvre une réalité. Parce que ici, et c'est très amusant, hein, De Gaulle fasciste, on est en 58, De Gaulle fasciste. Non, mais ça couvre cette réalité, c'est-à-dire que le fascisme est toujours présent, il ne disparaît pas, soit il est porté par des gens bah, qui ont survécu et qui sont toujours là avec ses idées, soit parce que ces idées plaisent et sont transmises de nouveau. Et c'est un peu aussi le danger de ce mot qui, par ses multiples sens, nous a peut-être fait louper parfois la réalité de ce qui se passait.
Oui, ça a été par exemple une interprétation par exemple des actions de l'extrême gauche, et notamment l'extrême gauche violente en Italie, c'est que la polarisation sur l'antifascisme aurait empêché de voir tout un ensemble de réalités de l'époque. Donc c'est parfois une analyse qui a été faite par les acteurs eux-mêmes. Alors il y a deux éléments. Il y a d'abord une vraie analyse de la situation qui est faite, hein, notamment par les militants de gauche, c'est qu'il y a des processus de fascisation. Hein, c'est par exemple le terme qu'on va trouver dans les textes de la fraction Armée Rouge en Allemagne, hein, en disant il y a un vrai processus de fascisation. Et donc c'est une analyse, c'est pas simplement... Ça peut être évidemment une insulte qu'on jette à l'adversaire conservateur, ça bien entendu, on l'a vu. Mais ça peut être aussi une analyse en disant, ben voilà, il y a tout un ensemble d'éléments. Hein, on le voit, hein, cette idée que... on voit ce terme de processus qui est employé, encore une fois, par des militants de la RAF. Par exemple, il y a une des intellectuelles d'extrême-gauche particulièrement brillante, qui est devenue ensuite une terroriste, qui est Ulrike Meinhof, qui était dans ses textes, elle analyse, dans le magazine Concrète dans lequel elle écrivait, elle analyse tout un ensemble de processus. Donc, ce n'est pas simplement des éructations, c'est l'idée qu'il y a des processus de fascisation. Et parmi ces analyses, il y a souvent l'idée que, dans le fond, il se joue quelque chose de nouveau avec l'impérialisme, évidemment. C'est le temps des guerres coloniales, donc des puissances colonialistes, qui vont évidemment porter le fer contre les mouvements indépendantistes. Et donc, du coup, il peut y avoir une congruence aussi, une forme de cohérence ensemble, en disant, dans le fond, le nouveau fascisme, c'est lié à l'impérialisme, comme autrefois, comme avant 14. Donc du coup, il y a cette idée, et du coup, les luttes coloniales et l'anticolonialisme vont aussi redonner, en quelque sorte, une forme d'actualité à une réflexion sur ce qu'est le fascisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parlait de l'Allemagne, en Allemagne de l'Ouest, dans toute la gauche estudiantine et parfois dans l'extrême gauche plus violente, c'est évidemment la guerre du Vietnam qui dit, ben voilà, on écrase un peuple, c'est l'impérialisme. Et donc là, il y a de nouveaux analyses sur les liens entre fascisme et impérialisme. Donc ça va être aussi un renouveau, en quelque sorte. C'est pas seulement de la continuité d'une insulte ou d'une dénonciation, c'est aussi par rapport à un nouveau contexte que ça va être pensé, et notamment cette question coloniale, d'ailleurs, où on le voit bien, l'OAS, par exemple, en France pendant l'Algérie, évidemment, c'est quand même d'une violence rare, c'est pas loin d'un nouveau fasciste, de fait. Donc, du coup, on peut l'interpréter comme on veut, ensuite, je rentre pas dans cette question-là, mais de l'autre côté, on voit arriver quand même des forces qui sont extrêmement violentes, une forme de nationalisme et de colonialisme qui se veut populaire et qui, donc, paraît aux forces de gauche comme un nouveau fasciste. Donc, il y a aussi un contexte. Il n'y a pas simplement, je veux dire, la réitération d'une dénonciation de l'adversaire, bien sûr, mais il y a aussi ces enjeux nouveaux qui font que ça porte des éléments.
Oui, parce que les choses ne se reproduisent pas par le temps. On sait bien, vu que les contextes sont toujours différents, et puis parce que par définition, on sait ce qui s'est passé avant Nicolas Hoffenstadt. Dans cette réflexion sur l'antifascisme, vous êtes remonté au 19e siècle avec Karl Marx qui annonce la prise de pouvoir de celui qui deviendra Napoléon III. Vous avez expliqué 1914. On trouve ça durant tout le 20e siècle, cette analyse-là qu'un contexte, et notamment la crainte de la bourgeoisie de perdre ses avoirs et son pouvoir, les pousse à aller du côté du fascisme. Cette analyse-là, c'est quelque chose, en fait, qui fait toute l'histoire aussi de la RDA, mais pas seulement, c'est beaucoup plus large.
Oui, bien sûr, c'est une interprétation qu'on retrouve d'ailleurs chez certains historiens qui sont d'influence marxiste. Je pense à Arnaud Meyer, c'est comme ça qu'il interprétait, dans le fond, sans l'expliciter toujours, la guerre de 14. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui dépasse simplement la RDA, sauf que effectivement, en RDA, c'est ça qui en fait l'intérêt, c'est que c'est tellement fondateur que ça oblige aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est quand vous vous définissez comme un État antifasciste, évidemment, ça a un certain nombre de conséquences dans votre manière de faire. Et d'ailleurs, ça peut avoir aussi une influence sur les populations. J'étais frappé en écrivant l'histoire globale de la RDA. Je regardais aussi ce qu'on peut avoir comme type de sondage ou d'enquête d'opinion. C'est toujours difficile dans un régime autoritaire de savoir ce que pensent les gens. Mais les historiens arrivent toujours à passer derrière. Et en fait, on voit que même à la fin du régime, dans les années 80, il y a beaucoup de citoyens qui sont interrogés, qui sont fiers de la RDA, alors qu'on est elle est en train de péter, on est dans les années 80, il y a plein de dysfonctionnements, ils sont fiers de l'antifascisme. Donc vous voyez, c'est ambigu. On pourrait se dire, oui, c'est une forme de rhétorique qui finit par tourner à vide. C'est sans aucun doute vrai quand on voit que rien ne marche, qu'on n'a jamais les fournitures dont on a besoin, qu'il n'y a jamais de pièces détachées, qu'il y a plein d'usines qui dysfonctionnent et qu'il y a plein d'autres choses qui dysfonctionnent, et sans compter, je ne parle même pas de la répression politique. Et en même temps, l'idée, on voit dans ces enquêtes d'opinion, on voit que l'idée que c'était un État antifasciste, c'est une des fiertés qu'un certain nombre de citoyens peuvent aussi mettre en avant quand ils analysent leur propre pays. Donc, vous voyez, les choses sont plus ambiguës qu'il n'y paraît parfois.
Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, que reste-t-il de cette histoire antifasciste de la RDA ?
Alors, c'est une très bonne question. C'est que ce qui s'est posé, c'est qu'est-ce qu'on fait après la disparition de la RDA en 1990 ? La question s'est posée, dans le fond, cet héritage antifasciste. Dans le fond, il a été en partie bazardé parce qu'on se disait il est trop lié au régime autoritaire, il est trop lié à la répression politique, il est trop lié à l'échec et au communisme international. Donc il y a eu une tendance de jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous me passez cette expression un peu triviale, mais qui dit bien les choses ici. À partir du moment où la RDA n'existait plus, son antifascisme... Et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose que je trouve parfois assez maladroit. On dit le mythe de l'antifascisme en RDA. Mais un mythe, ça donne l'impression que c'est une forme aussi de quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. L'antifascisme, c'est pas quelque chose qui est mythique. C'est des camps de concentration, c'est des types qui souffrent. Si vous regardez le destin des communistes dans les camps de concentration, c'est pas un mythe. Donc du coup, bien sûr que c'est un discours politique, c'est un discours officiel, mais c'est pas un mythe. Et donc du coup, il y a eu cette tendance un peu à rejeter dans le fond l'antifascisme comme un discours associé au pouvoir de la RDA et qui, et du coup, ça a beaucoup été remplacé par l'idée d'antitotalitarisme, qui permettait de mettre ensemble, du coup, le fascisme d'un côté et le communisme de RDA, donc pour les Allemands, de l'autre. Donc vous voyez, parce que ça permettait d'éviter. Et donc les années 90, au moment où la RDA disparaît, c'est le grand moment des réflexions contre le totalitarisme. Donc totalitarisme qui permettait du coup, bien sûr, de dénoncer le nazisme, de continuer un travail de mémoire, mais aussi de ne pas donner dans l'antifascisme de la RDA qui apparaissait comme beaucoup trop lié à une dictature dont on ne voulait plus. Donc il y a eu toute une recomposition. Et il y a peu de gens, peu de voix qui se sont élevées. Il y en a quand même dans l'historiographie qui ont dit attention, l'antifascisme, c'est pas simplement un mythe, c'est aussi une réalité, il faut continuer à le travailler. Mais ça a été souvent et largement écrasé par cette idée d'antitotalitarisme.
Et puis associer le fascisme et le totalitarisme, alors qu'il soit nazi ou qu'il soit lié au stalinisme, c'est oublier aussi la présence du fascisme dans les démocraties. Et ce danger-là, on sait qu'il est omniprésent.
Oui, bien sûr. D'abord, il y a la montée des partis d'extrême droite, dont certains n'ont pas pris le pouvoir. On ne sait pas encore quelle forme ça peut prendre si jamais ces partis d'extrême droite arrivent au pouvoir. Donc effectivement, rejeter tout ça au nom de l'histoire, c'est aussi dangereux. Alors, ce qui est certain, c'est qu'à mon sens, on peut bien sûr en discuter, mais l'histoire ne repasse pas les plats. Donc vous l'avez rappelé, historien, donc on sait très bien que tous les contextes sont différents. Mais c'est pas une raison pour penser que des cadres globales, comme les définitions du fascisme, ne nous servent pas à penser aussi les risques contemporains. À mon avis, ce serait dommageable de perdre ce qu'a été, parce qu'il y a tout un ensemble de caractéristiques du fascisme que les historiens ont défini, qu'on trouve partout, qui permettent quand même peut-être de penser aussi un certain nombre des enjeux contemporains de manière nouvelle, comme on l'a pensé de manière différente après 45, pendant les guerres coloniales. Il ne faut pas pour autant abandonner le concept sous prétexte qu'il est historique. Il faut évidemment l'adapter, le comprendre. Ça, c'est évidemment un enjeu contemporain. Et d'ailleurs, les continuités, elles sont là. Elles sont là, on le voit bien en Italie. Je veux dire, la figure de Mussolini, par exemple, elle a été, à l'époque de Berlusconi, il y a eu des travaux qui l'avaient montré, elle a été, en quelque sorte, revalorisée, elle a été détendue, on a arrondi les angles, on a présenté les aspects les plus positifs et moins mis en avant les autres aspects. Il y a même des criminels de guerre qui ont été réhabilités à l'époque de Berlusconi. Donc il peut y avoir aussi un jeu des populismes avec le fascisme passé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention, comme Marc Bloch, à faire fonctionner le passé et le présent dans les deux sens.
Un rappel nécessaire. Merci vivement à vous, Nicolas Offenstadt, d'être venu dans le cours de l'histoire. Alors, il y a bien sûr l'histoire globale de la RDA. C'est publié chez Talendier. Il y a l'urbex RDA. Et ça, votre démarche sur l'urbex, cette exploration de lieux abandonnés qui, en réalité, sont porteurs d'histoire et de mémoire, c'est toujours passionnant. Et donc, dans la lecture que l'on peut avoir de l'histoire globale de la RDA, il y a un dossier iconographique avec des punks. Mais oui. Ça tombe très bien, vous savez, parce que le prochain épisode dans le cours de l'histoire, c'est Redskins et Punk, des bandes son antifascistes. Merci beaucoup à vous.
Redskins, c'est un mouvement qui arrive largement après les skinheads, entre les skins, les faf et tout ce qui touche autour. Et on est antiraciste et antifasciste.
Le cours de l'histoire.
On les confond souvent avec les skinheads, ce sont les Redskins. Au début, skin communiste, aujourd'hui, un mouvement antiraciste.
Nous étions en 1980 avec cette archive dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique Ludovic Auger. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Rappel, Laloum, Jeanne Coppe, Sidonie Lebo, Chloé Rouillon, Tom Umdenstock et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur l'application Radio France et puis à retrouver aussi sur le site internet franceculture.fr.